Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Une émission par Nadia Lichtig.
Muriel Abrar, oui. Ravie de te retrouver aujourd'hui chez toi pour une conversation autour de ce que tu fais.
Oui, ravie également.
Oui, alors tu es auteur et créatrice vidéo et metteur en scène.
Oui, et réalisatrice.
Réalisatrice, peut-être tu peux te présenter avec tes propres mots.
Alors, c'est une bonne question. je vais peut-être me présenter par rapport à des choses que j'ai fait ou qui sont en cours, plutôt qu'à des mots, en fait, ou plutôt qu'à une profession. Je peux dire que j'ai fait de la mise en scène. J'écris énormément. L'écriture, je crois que c'est l'axe principal. J'écris énormément. J'ai écrit des scénarios. Il y a un des scénarios qui est devenu une pièce de théâtre qui s'appelle La Campagne Royota. Et bizarrement, c'est en train de redevenir un film. Donc, c'est assez drôle. Donc, La Campagne Royota, on l'a joué, en fait. Il existait en pièce de théâtre. Et je suis en train de le réécrire en film.
Donc, c'était un film au départ ?
Ouais. Enfin, c'était un scénario que je n'ai pas tourné, mais c'était un scénario qui est devenu une pièce de théâtre. Et c'est vraiment le hasard de la vie. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait un metteur en scène qui était directeur de théâtre qui avait repéré que j'écrivais et qui a insisté pour que je vienne faire un espèce de groupe d'atelier d'écriture. Moi je voulais pas y aller parce que j'ai dit mais c'est pas prêt. Je me suis aperçue qu'en fait j'étais celle qui avait le plus préparé son texte dans tout le groupe et du coup on l'a travaillé en pièce. Et ce qui était assez marrant, c'est qu'en film j'avais commencé à démarcher des productions. J'en avais pas démarché énormément hein, mais et toutes les productions avaient la même réaction et disaient mais on comprend pas l'univers. Ils disaient on comprend pas l'univers et la plupart me disaient c'est du film d'animation. Et je leur disais non, ce n'est pas du film d'animation, c'est du surréalisme. Alors j'ai pas vu énormément de productions, mais je pense ceux que j'ai vus, ils n'étaient pas sensibles en tout cas à ça. Et le surréalisme, c'est d'ailleurs un courant qui est connu en tant par André Breton, enfin etc.
Dans l'histoire de l'art,
ouais. Dans l'histoire de l'art, mais le surréalisme fait aussi partie du cinéma.
Ah, bien sûr, avec Buñuel, par exemple.
Ouais. Bah c'est surtout qu'en fait le surréalisme, en fait, tu prends des éléments réels et non pas fantastiques. Mm-hmm. Ce sont vraiment des éléments réels que tu associes et c'est leur association qui mm-hmm. est étrange, mm-hmm. mais pas l'élément lui-même. Et ça, bizarrement, en termes de cinéma, c'était très, ça a été reçu d'une manière très frileuse. C'est-à-dire, moi, ce que je disais, parce que là, c'est comme c'est l'histoire d'un roi. Le roi, il, pour moi, le palais, j'ai cherché ce que ça voulait dire, un palais. Comment c'est ? Qu'est-ce que c'est à travers les siècles ? Cette histoire, ce que j'ai faite, c'est, je la voulais universelle et intemporelle. Et ce qu'il y a, c'est qu'en fait, du coup, je me suis dit, s'il y a un roi, qu'est-ce qui fait que c'est un roi ? Qu'est-ce qui fait que c'est un palais ? Qu'est-ce qui fait que... Voilà, quel est le plus petit dénominateur commun pour qu'on puisse se dire c'est un palais ? Et en fait, à force de chercher dans l'histoire, enfin de faire des recherches, je me suis dit, mais si on a un espace vaste et qu'on met un trône, tout de suite, on comprend. Voilà, c'était ça, cette démarche, en fait. C'est-à-dire que, en fait, à l'époque, je voulais le mettre dans un pré au-dessus d'une falaise. Je voulais ça faire en Normandie, dans un pré au-dessus d'une falaise. Et je voulais mettre juste un trône ou quelques éléments qui faisaient comprendre que c'était un palais. Voilà. Mais ça, c'est vrai que par les productions, ça a été mal perçu. Mais j'avais pas fait énormément de recherches auprès des productions aussi, hein, je le reconnais.
Raconte-nous un petit peu ce scénario, pièce de théâtre.
Ah, ce scénario, ouais. Voilà. Et enfin, donc juste pour finir là-dessus, ouais. C'est qu'en fait, bizarrement, dès que je me suis tournée du côté du théâtre, par ce directeur de théâtre qui a insisté, ça a été tout l'inverse. Personne ne m'a posé de questions sur l'univers, sur quoi que ce soit. Tout le monde s'intéressait au texte et ce que le texte disait.
Donc finalement, tu t'es projetée dans un univers de cinéma où on t'a en quelque sorte pas reçu comme tu le souhaitais. Ouais. Et au théâtre, on t'a reçu...
Il n'y a eu aucun problème. Ouais. Voilà, c'était très étonnant pour moi. C'était vraiment... voilà. Et donc, voilà, donc la campagne du Royota... ça se passe au royaume de Lioti, qui est un tout petit pays de 696 habitants. Et ça a toujours été les royautas qui sont les rois de père en fils de ce royaume. Voilà. Un beau jour, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas quelle mouche l'a piqué, le peuple fait la révolution. Donc il fait la révolution, il renverse le roi, le peuple est hyper content de lui-même en disant, ben voilà, nous allons faire une démocratie, nous allons faire la première démocratie de l'histoire de Lioti, nous allons faire une élection, nous allons élire notre président que nous allons choisir, et voilà. Et le Royota, tout se passe sans effusion de sang, puisqu'il dit d'accord, j'abdicte, d'accord. J'ai juste une petite question là avant de partir, excusez-moi. Vous parliez d'élection présidentielle, est-ce que vous pourriez m'indiquer le bureau des inscriptions ? Alors là, tout le peuple s'énerve en disant « Mais c'est pas possible, vous pouvez pas vous présenter. » Enfin, non, vous pouvez pas vous présenter. Et le roi, il répond « Non mais... » Enfin, l'ex-roi, pardon, il répond... Ah non, mais attendez, elle commence bien, ma démocratie. C'est-à-dire qu'il y en a qui peuvent se présenter, d'autres pas. Elle est où, votre égalité ? Donc voilà, donc nous partons dans l'histoire du Royota qui se lance dans l'élection présidentielle. Voilà. voilà. Et donc, voilà. Et donc, c'est assez drôle parce que du coup, on l'a fait en pièce de théâtre avec quatre comédiens. C'est très rigolo, c'est très... Enfin, moi, ce que j'adorais, c'était le jouer devant des élèves de collège. Alors, c'est marrant parce que ça touchait énormément les enfants, énormément. Il y avait des enfants qui avaient 8-9 ans. Je me rappelle, c'est quand on faisait des présentations où, du coup, on montrait pas en entier. Il y avait des enfants qui voulaient absolument savoir, qui étaient revenus quand on l'a vraiment joué. Enfin, voilà, c'était assez dingue. Il y avait des collèges, je me rappelle, des collèges qui étaient... c'était très drôle parce que... Je me rappelle que le programmateur du théâtre, il avait dit... Alors, je comprends pas, parce qu'en fait, là, les élèves, ils étaient dans le hall complètement surexcités, complètement... Voilà, ils ont vu ta pièce, ils ont pas bougé, ils sont sortis et ils étaient de nouveau surexcités. Donc voilà, mais c'était génial, parce qu'en fait, après, donc, on faisait des débats. Et les débats étaient incroyables. Qu'est-ce que c'est, la démocratie ? Qu'est-ce que ça veut dire de choisir un président ? Qu'est-ce que ça veut dire de choisir de voter ? Comment on vote, pourquoi on vote, pour qui on vote. Et ça, du coup, je l'ai agrandi en atelier, justement, aussi, pour élèves, en collège et en lycée. Et en fait, je les faisais eux-mêmes se présenter. On faisait une fausse élection par groupe, du coup, et ils devaient réfléchir à leur programme. Et en fait... Et ce qui se passait, c'est que les élèves, du coup, quand on arrivait au jour du vote, ils se battaient pour aller mettre le papier dans l'urne. Mais ils couraient. Dès qu'on disait le vote est ouvert, ils se battaient. Parce que, en fait, tout changeait à partir du moment où ils étaient impliqués, tout simplement. C'était eux qui construisaient le programme. C'était eux qui construisaient le discours, tout ce qui est de la campagne, en fait, comment on appelle ça ? Tu sais, quand il y a une phrase de campagne.
Oui,
le slogan. Ils faisaient même des vidéos de campagne, etc. Donc, du coup, ils réfléchissaient à ce qu'ils voulaient.
Et en même temps, c'était un jeu, donc il n'y avait pas ce souci après coup qu'il y avait peut-être que les plus... populaire de la classe.
Voilà, est... c'est ça. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je faisais, c'est qu'on faisait quelque chose de faux qui était de devenir le président du collège ou le président du lycée. Donc évidemment, on mettait les choses en place très clairement. C'était faux parce qu'il n'y a pas de président de collège ou de lycée, qu'il n'est pas élu, que ce n'est pas un vote, etc. Mais en fait, ce que je leur faisais faire, c'est réfléchissez à ce que vous voulez, vous, pour le collège. Réfléchissez à ce que les autres veulent, allez peut-être leur demander et défendez les idées. Et en fait, c'est assez drôle parce que ça se tournait aussi en réalité quelque part, parce qu'il y a des moments, il y a des élèves qui me disaient, voilà, on a une toilette par étage. Tu vois, un collège de plus de 1000 enfants, un toilette par étage, c'est complètement fou. Enfin, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi? Et moi, je leur disais, vous avez des droits. C'est-à-dire, là, évidemment, on rigole, on fait nos petits ateliers. Mais dans la réalité, vous avez vos droits. Et vous avez le droit de dire, bah voilà, à la cantine, il y a un problème parce que vraiment, il y a telle et telle chose, c'est vraiment pas bon, c'est pas possible, on peut pas manger. Se retrouver, même quand il pleut, ils étaient obligés d'être dehors, donc sous un préau, donc ils sont entassés les uns sur les autres, ils n'ont pas le droit d'être à l'intérieur, même s'il fait froid. Il y a des choses quand même, il y a des dysfonctionnements quand même de concrets. Et du coup, par le biais du jeu, c'était un jeu en soi, et que du coup, ils pouvaient eux-mêmes inventer, voir, comprendre ce dont ils avaient besoin. Parce que du coup, ils parlaient des ramassages scolaires, ils parlaient des bus, ils parlaient des heures. Alors, je ne comprenais pas tout, parce que c'est leur sauce à eux. Mais il y a des histoires d'heures où ils ne peuvent pas sortir, mais ils ont des heures entre les cours, mais c'est mal fait. Enfin, je ne sais pas, je ne connais pas exactement, hein. Mais disons que ça les impliquait, ça les faisait réfléchir à ce qu'ils sont eux en tant que citoyens et leurs droits de citoyens.
Ça les rendait autonomes.
Oui, autonomes en termes de réflexion aussi.
Est-ce que c'est quelque chose que tu continues à faire ?
Oui, alors je le fais plus dans le sens où je fais plus la pièce. Mm-hmm.
Donc, en tant que pièce de théâtre, ça, c'était monté sur scène. Après, voilà. C'était adapté à l'école. Donc, ça, c'est dans le contexte scolaire.
Ouais.
Et maintenant...
Alors c'est marrant parce que donc une personne qui me connaît très bien et qui est à la fois réalisatrice, productrice, enfin qui fait énormément de choses, on parlait en fait de cette pièce et elle m'a dit envoie-moi la pièce ou envoie-moi le scénario parce que j'étais en train de raconter que c'était avant un scénario. Elle m'a dit envoie-moi le scénario, je lui ai envoyé. Et peut-être une demi-heure après, elle m'a rappelé, elle a dit « je veux le faire en film ». Et du coup, je me suis dit « c'est dingue ». C'est-à-dire que c'était un scénario à la base qui est devenu une pièce de théâtre et c'est en train de redevenir un film.
Et maintenant, c'est donc un projet en cours.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, avec le producteur et la productrice, on l'a. Alors ça, c'est la tambouille du CNC et du cinéma. C'est-à-dire qu'on l'a présenté au CNC et ça a été comme. Je précise, c'est un court métrage, enfin un moyen métrage en fait. Hein, c'est pas un long métrage. Et ça a été, c'est ce qu'on appelle PSR, peut se représenter. C'est-à-dire qu'ils ont énormément aimé. Mais ils n'ont pas attribué de... Enfin, ils n'ont pas dit oui, en fait. Voilà, et donc, de nos jours, le CNC, c'est hyper important de l'avoir pour pouvoir produire et faire concrètement le film, enfin, de le faire dans des bonnes conditions.
Donc ça, c'est en fait un dossier qu'on envoie, on remplit un dossier...
Ouais,
on...
c'est ça, exactement. Et en fait, voilà, donc du coup, ça a été dit « peut se représenter », et du coup, je suis en retravail... pour le représenter à nouveau, pour le défendre à nouveau, quoi. Voilà.
Et donc, il y a plusieurs étapes, c'est ça ? Donc, on envoie, après, et on est présélectionné, et après, on est auditionné ?
Oui, voilà, ouais. Voilà. On verra.
Et ensuite, il y a une subvention ?
Oui, voilà, c'est ça.
Okay.
Ils attribuent une subvention. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est tout un mécanisme. C'est-à-dire qu'en fait, si tu as le CNC, tu peux demander des chaînes télé, tu peux, etc., etc. C'est tout un mécanisme. Mm-hmm. Ce qui fait que c'est très, 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 très important d'avoir le CNC, en fait. Mm-hmm. Parce que ça t'ouvre des portes. Voilà. Et comme là, c'est quand même un peu quelque chose de conséquent, il faut un peu de moyens pour le faire.
Et est-ce que le scénario, il a changé depuis sa première monture, lorsqu'il est passé donc, au théâtre ? Alors maintenant, où restent les ressemblances? Où ça a changé
Alors ça a beaucoup changé. C'est pas tant le théâtre ou le cinéma, c'est plus en termes de plusieurs choses, parce que moi je suis quelqu'un qui travaille en permanence ces textes, je les arrête jamais, qu'ils soient joués ou pas, ou voilà, je retravaille de manière constante. Ce qui d'ailleurs pour les comédiens était horrible, parce qu'ils me disaient tout le temps, Muriel, arrête de changer s'il te plaît. Ce qu'ils comprenaient, parce que les pauvres, ils n'arrivaient pas à prendre le texte, puisque ça changeait, voilà. Ça changeait pas énormément, mais il y avait toujours...
Nouvelle réplique,
voilà.
Une phrase de moins.
Ou une amélioration d'une chose ou d'une autre.
C'est difficile quand même.
Je sais. Donc voilà, j'étais obligée de me restreindre moi-même. Voilà, donc c'était pas spécialement une évolution film-théâtre, mais c'était plus cette évolution-là où, par exemple, j'avais une grande, grande question, parce que je l'ai écrit, en fait, la toute première mouture, je l'ai écrite en 2007. Et ce que je trouve extrêmement drôle, c'est qu'à chaque fois que je sors soit la pièce, soit le scénario, à chaque fois, on me dit « Oh là là, c'est extrêmement actuel ».
Non, c'est quand même là, on est dans une... Est-ce qu'on peut dire une parabole? Est-ce qu'on peut dire analogie? Je ne sais pas, mais...
C'est une parabole, ouais. Oui, parce qu'en fait, c'est pour ça que je voulais que ce soit intemporel et universel. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas de parler d'un lieu. Il ne s'agissait pas de parler de France, d'Europe ou de démocratie. Voilà, il s'agissait de parler de la démocratie, du système démocratique en particulier. Qui existe depuis des lustres, ça n'existe pas,
Depuis la Grèce antique.
Depuis la Grèce antique, exactement. Et il y a des problématiques qui étaient à cette époque-là et qu'on retrouve de nos jours. Hein. Donc le fait de prendre conscience qu'on est des citoyens, c'était problématique parce qu'il y en a qui étaient citoyens, d'autres pas. Enfin voilà, c'était quand même autre chose.
Les femmes n'étaient pas citoyennes. Hein.
Les femmes ou les esclaves, etc. Hein. Donc ça, c'était quand même autre chose. Hein.
Très peu de monde.
Ouais. Mais donc bien sûr que les choses ont changé.
Mais ça permet effectivement au moins de pouvoir commencer à penser. Enfin, c'est vrai que peut-être pour. Je reviens au contexte pédagogique.
Ouais.
Pour des adolescents, au moins, ils peuvent s'accaparer quelque chose qui apparaît peut-être sinon trop grand ou trop abstrait.
Exactement, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, je trouve que le jeu des médias. Alors, je ne vais pas parler de suite dans les. À l'époque de la Grèce, parce que je ne connais pas assez, mais en tout cas de nos jours, c'est ce qui me pose un énorme problème, c'est-à-dire que on est tellement envahi d'images, de slogans, de discours, d'images, on est bombardé de ça.
De fake news.
De fake news, etc., qui fait que à quel moment on arrive calmement à se positionner en tant que choix citoyen, c'est hyper dur. C'est extrêmement dur. Dire, il y a combien d'extrêmes qui... même pas les extrêmes, tous les politiques jouent à ça, de dire ce qu'on a envie d'entendre pour pouvoir avoir des voix. Et puis, c'est très simple, ça va se tourner vers... qui, par exemple, si on prend la France, qui vote le plus? Ce sont les personnes âgées. Bon, alors, que veulent les personnes âgées? On va aller vers ce discours-là, etc., etc. Donc, si c'est pour se tourner vers des discours pour avoir des voix... c'est un problème aussi, c'est-à-dire qu'il y a des problématiques qui ne sont pas réglées, du coup. Si c'est que pour courtiser, pour avoir des voix, et voilà, c'est le jeu des politiques, hein, voilà. Mais soit en tant que citoyen, comment on peut réagir, qu'est-ce qu'on peut faire, et pour qui on vote, quoi. Parce que, en fait, ce que je voulais, c'est que je voulais ni de référence de temps, ni de référence de lieu. Ce qui fait que le lieu n'existe pas en soi. En référence de temps dans l'histoire, il y a une histoire d'un téléphone portable qui est piqué, machin, etc. Mais c'est dire que c'est fait exprès aussi, c'est-à-dire qu'au niveau des costumes, au niveau des décors, en fait, tout était complètement mélangé, abstrait. On sait pas à quelle époque c'est, on sait pas, voilà. Mais peu importe, on comprend bien que c'est pas du tout l'important. Et voilà. Mais moi, ce qui m'avait marqué, c'est pourquoi je l'ai écrit, il y avait deux choses qui m'avaient énormément marqué à l'époque. c'était... ça faisait des années déjà que je trouvais ça assez dingue. On était beaucoup plus calme en 2007. Hein, enfin, les années d'avant, par rapport à maintenant, en termes médiatiques, enfin, c'était quand même beaucoup plus calme. Maintenant, c'est d'une violence, avec les tweets, avec tout ce qu'on veut, enfin, tout ce qu'on connaît, quoi. Avec le langage... très, très bien utilisé par Trump, qui est très clivant, qui permet, évidemment, hein, c'est ce que tu disais tout à l'heure, les bons, les méchants, enfin, d'être dans une réflexion binaire. Et ça, c'est contre notre propre avantage en tant que citoyen. Parce qu'évidemment, rien n'est ni noir ni blanc. Donc, et de nous faire croire ça, et de nous matraquer d'images et de slogans et de tweets, maintenant c'est X, c'est ça, pardon. J'y suis même pas dans ce réseau social là, j'ai pas envie. Et évidemment, ça, à force de nous matraquer ça, on finit par le croire. Mais non, notre liberté, la liberté, c'est de s'extraire de ça. Et plus on s'extrait de ça, plus on a la liberté de dire ah. Je veux aller vers tel courant politique, je veux aller vers telle chose, il est important de se battre pour ça, etc. Et donc, pour revenir à 2007, où c'était plus calme quand même, eh bien, en fait, il y avait deux choses qui m'avaient marqué. La première chose, c'est que le taux d'abstention croissait de manière exponentielle, que ce soit en France, en Europe. Et voilà. Et ça me rendait dingue, parce que... on arrivait à des taux d'abstention énormissimes, que ce soit aux législatives, alors moins à la présidentielle, mais que ce soit moins aux municipales, mais les législatives, on atteignait des sommets hein, d'abstention. Et en fait, et d'un seul coup, paf, il y en a un dans les pays du Maghreb qui s'immole par le feu parce qu'ils ne peuvent pas voter. Et là, d'un seul coup, il y a eu ce qu'on appelle la révolution arabe, où, en fait, tous les pays du Maghreb se sont enflammés pour avoir le droit de voter. C'est-à-dire que les gars, ils allaient faire leur révolution, ils sortaient dans la rue, ils se faisaient certains tuer, enfin, il y a eu beaucoup de choses différentes, pour avoir le droit de voter. Et c'est-à-dire que nous, de l'autre côté de la Méditerranée, on est tellement habitués à voter qu'on ne va plus voter. Et ça, je trouvais ça me rendait dingue. Ça me rendait dingue. Je me suis dit, mais on se rend compte du pouvoir qu'on a. C'est un pouvoir de citoyen d'être libre et de choisir ce pour quoi on va voter. Et donc ça déjà, ça me faisait réagir. Et l'autre chose, c'était, il y avait la campagne électorale qui est à l'époque entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy, était devenue très violente. C'est-à-dire que Sarkozy commençait à se servir justement de ça, de cette vision clivante des gens, des choix. Il y a les bons, les méchants. Tout le monde se souvient du Karcher, etc., etc. Et ça, ça devenait violent. Et en fait, à commencer à travailler ça, à travailler les campagnes électorales, je me suis aperçu à quel point quand on était dans les années 50, 60, 70, on était chez les Bisounours. C'était impressionnant. C'est-à-dire, en fait, si on reprend tous les comment ça s'appelle le débat télévisé d'entre deux tours. Quand tu ça, c'est hyper caractéristique de beaucoup de choses. Eh ben, c'est si tu en as l'occasion, fais-le. Tu vas voir, c'est très impressionnant. Tu prends des débats télévisés d'entre deux tours d'avant 2007. Je te dis, tu prends les années 60, 50, enfin 50, ben non, la télé était que naissante. Enfin voilà, tu vas voir à quel point s'ils s'engueulent, il faut voir comment c'est courtois, il faut voir comment c'est gentil, il faut voir comment c'est. Enfin, c'est impressionnant. Puis c'est comme si c'était au ralenti. Et ben on prend ça là de nos jours, plus rien à voir. C'est sanglant, c'est sanguinolent. Comment on peut se permettre en tant que président d'insulter les gens? Je veux dire, qui a été élu à... je sais plus, c'est en Hongrie, enfin, il y a quand même plusieurs endroits en Europe même, qui a des gens qui sont à la tête de l'État et se permettent d'utiliser des insultes sur des journalistes ou sur des opposants. Ben non, ça marche pas comme ça, c'est pas possible. On peut pas être à la tête d'un État et prôner l'irrespect. C'est pas possible, ça.
J'irais bien au boulot que tu es en train de faire. Donc là, on est dans une étape où tu veux maintenant amener ça à un public plus large.
Ouais.
Et donc, le cinéma, c'est un des vecteurs.
Bah, la diffusion des courts-métrages ou moyens-métrages est limitée de nos jours, mais ce sont des festivals, des rencontres, la télévision qui peut l'acheter. Mm-hmm. Voilà. Bah, c'est assez restreint, malheureusement. Mais c'est vrai aussi que c'est... comment dire? Il y a aussi le fait de tu peux faire des soirées, ou tu peux faire partie d'une soirée, ou tu peux faire des débats. Et ça, ça me paraît important, ça. Okay. Des choses comme ça, voilà.
Au début de notre entretien, on a parlé du palais et du trône. Et donc, tu parlais de ça parce que tu penses à la mise en scène, à présent.
Bien sûr.
Et donc, c'est quelque chose que tu fais uniquement en écrivant ou si en dessinant?
Ah non, alors je ne sais pas du tout dessiner.
Ah oui,
non,
parce que moi, ça, tout de suite, tu vois les images.
Oui, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, je dissocie jamais l'écrit de l'image. C'est-à-dire qu'en fait, si j'écris, c'est que je sais à quelle image ça correspond.
Quelle forme on s'est écrit? Je suis très intriguée par...
Alors, c'est... Bah oui, mais ça, c'est une bonne question. Parce qu'en fait, bah, par exemple, en pièce, c'est surtout les dialogues qui sont importants pour communiquer aux acteurs, les situations. Et après, bah, tu travailles avec le scénographe, l'univers. Donc en fait, c'est un dialogue direct. Il y a les didascalies, il y en avait un peu, mais il n'y en a pas besoin d'en avoir une tonne, puisque... Puis en plus, j'avais l'avantage que la scénographe soit aussi la costumière, la créatrice costume. Du coup, c'est un dialogue ensemble sur l'univers et comment on le fait, etc. Donc ça, voilà. Mais le film lui-même, oui, en effet, il faut être beaucoup plus précis en termes de didascalie pour tout le monde, pour le producteur, pour le CNC, etc., etc. Mais il y a aussi une chose qu'on a faite. On est allé tourner au Palais de Tokyo. On a mis un trône, justement. Alors c'était drôle, c'était un trône de la Comédie Française. Et on a mis Denis Lavant sur le trône de la Comédie Française au milieu d'une super grande salle vide au Palais de Tokyo. Et il y a eu tout un tas d'amis qui sont venus et on a fait des essais, justement, des révolutionnaires.
À quel étage?
En bas, en fait. Bas, ça s'appelle la salle du Saut du Loup, je crois.
Fallait louer la salle.
Alors ils nous ont soutenus. Pour être vraiment précis, c'est-à-dire qu'en fait, eux, ils avaient des frais irrépressibles, donc il fallait bien qu'on soit là pour ces frais-là, qui sont les frais de gardiennage, etc. Enfin, ce sont des choses, comme dirais-je, normales. Mais ils ont, comme ils adoraient le projet, ils n'ont pas fait de location du tout. Non.
Et puis c'est aussi un lieu public.
Oui, mais c'est une forme de soutien qui était géniale. Donc voilà.
Bon bah écoute, c'est super d'avoir entendu la genèse de cette pièce. On va s'arrêter là, mais peut-être on peut faire une autre émission une autre fois, parce que je reste un peu sur ma faim. J'aurais aimé diffuser une partie de la pièce.
Bien sûr. Mais je peux te passer des photos des essais qu'on a fait au Palais Tokyo. Ouais.
Bah on mettra ça sur le site.
Okay. Ouais.
À bientôt, Muriel. Merci beaucoup.
Merci à toi, Nadia. Merci beaucoup.
Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Une émission Panadialistique.